Et le chapitre 4, Actes chapitre 4. Et nous allons considérer pour la dernière fois le thème du mois de notre Dieu immuable. Et j'avais vendu la peau de l'ours la semaine passée. Je ne sais pas s'il était tué ou non, là, mais j'avais dit que le premier message, là, 3 semaines, c'était par rapport au Père. La semaine passée, c'était au Fils. Et évidemment, cette semaine, on va parler du Saint-Esprit. Et certains ont même appelé le livre des Actes. Certains l'ont appelé les Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment l'Esprit de Jésus-Christ qui a été promis, qui a été envoyé, qui vraiment travaille à travers l'instrumentalité humaine. C'est lui qui fait les miracles, la prédication, la conviction de péché. Tout ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est une démonstration de la promesse qui avait été donnée, que Jésus allait envoyer son esprit. On le voit. Et donc, on va lire les versets 23 à 31 pour s'introduire. La persécution de l'Église était déjà commencée. Mettons qu'à Jérusalem, ça commençait à être beaucoup plus tendu. Et on lit ici, quand ça dit « après avoir été relâché », c'est ça, il avait été arrêté pour avoir prêché au nom de Jésus. Donc, Actes chapitre 4, verset 23. « Après avoir été relâché, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dire, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec assurance. Seigneur, on vient de lire un texte où est-ce que tu as répondu précisément à la prière que tes serviteurs t'ont adressée. Ils se sont basés sur ta parole, pour comprendre ce qui leur arrivait, et ils se sont appuyés sur toi pour que tu les fasses passer au travers de ce que tu avais pour eux autres. Seigneur, on te remercie qu'on peut, oui, s'assire à tes pieds, notre divin maître. Seigneur, ces paroles qu'on vient de chanter, on te les a adressées comme une prière. Oui, Seigneur, que vraiment tu parles et qu'on t'écoute, qu'on soit disposé. Merci, Seigneur, qu'on a ta parole vivante entre les mains. Merci, Esprit du Dieu vivant, que c'est toi qui nous enseignes et que vraiment tu puisses faire une œuvre extraordinaire au milieu de nous autres. On sait qu'on est dans des temps bien uniques qui nous surprennent, mais Seigneur, qui ne te surprennent pas. Et merci qu'on voit dans ta parole des gens de la même nature que nous, dans des circonstances qui peuvent se comparer aux nôtres, d'instabilité, de danger, de persécution. Mais merci que tu es le même, que tu ne changes pas, que tu donnes une pleine assurance à ceux qui se confient en toi. Merci que ce qu'ils t'ont demandé, ils l'ont reçu immédiatement, directement, sans reproche. Et Seigneur, on te demande, nous aussi, une pleine assurance pour prêcher ta parole, pour l'annoncer complètement, tout entière, comme Seigneur, c'est ton plan pour chacun de nous. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, de nos cœurs, qu'on soit complètement attentif à toi maintenant, dans ce temps qu'on prend, pour être enseigné de toi, pour être transformé par ta parole vivante. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. On vient de lire ici un passage qui est quand même, je pense qu'on pourrait dire, assez connu dans le livre des Actes. Mais il y a quelque chose des fois qui n'est pas nécessairement aussi évident à un premier coup d'œil, à première vue, en lisant le livre des Actes. Mais le livre des Actes illustre de façon puissante et bien unique l'immuabilité de Dieu. Comment Dieu ne change pas. Et dans une époque de grands changements. Une chose que j'ai soulignée dernièrement, c'est incroyable dans la Bible quand on s'arrête, comment il y a des époques, ce qu'on lit, c'est dans des époques de crise. Regardez, même Abraham, on dit, ah, il est sorti de son pays. C'était toute qu'une crise familiale, ça, là, ça a tout viré à l'envers. La sortie d'Égypte, on lit les livres des rois et tout ça. Mes amis, c'était des temps troubles. Déportation à Babylone, en Assyrie d'abord pour le nord, à Babylone pour le sud, les évangiles. Tout ça, c'était des époques très troubles. Et des fois, on se dit, ah, on est dans le pire moment que l'humanité a connu. Ben, peut-être pas. Il y a eu des moments difficiles à travers l'histoire. Peut-être pas exactement comme ceux-là qu'on vit, mais de la même nature. Et donc, ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est dans ces temps instables, ces temps de changement, Dieu reste le même. Je vous explique. À travers le récit inspiré, non seulement de ce qu'on vient de lire, mais de tout le livre des Actes, c'est le récit inspiré de l'émancipation de l'Église et de sa propagation, n'est-ce pas? La propagation du message de l'Évangile et de l'Église du Dieu vivant. On voit comment, à travers ces chapitres qu'on lit dans le livre des Actes, comment tout ce qui est prêché, ce qui est proclamé, ce qui est vécu, ça trouve sa racine, ça trouve son fondement dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est amené, c'est à la lumière de l'Ancien Testament. Il se rendait compte qu'il vivait le plein accomplissement de tout ce qui avait été dit. On a plusieurs, je vais vous en donner une couple d'exemples à travers le message, mais par exemple, il y avait un problème à un moment donné dans Acte 15, il y avait de la bisbille dans l'Église avec toute la question des judaïsants, la circoncision, est-ce qu'on devrait obliger les croyants de nature païenne et non-juive à observer, à revenir sous la loi de Moïse et tout ça, et sur quoi que se sont basés, à quelles références sont allées aux Écritures. Puis quand on lit dans les livres des Actes, les Écritures, là, c'est l'Ancien Testament, c'est ce qu'il y avait. Il peut y avoir certains écrits qui commençaient à circuler, mais vraiment, quand on lit, même en général, dans l'ensemble du Nouveau Testament, quand on voit l'expression « les Écritures », c'est surtout, on réfère à l'Ancien Testament. C'était vraiment... c'est pas parce que le Nouveau Testament, c'est pas les Écritures, mais pour eux, à leur époque, il y avait tellement peu de Nouveau Testament en circulation, à l'époque où ça a été écrit, le Nouveau Testament, que quand on parle des Écritures, on pense surtout à l'Ancien. Et on voit ça dans le livre des Actes par une expression qui revient souvent, mais il y a des citations de l'Ancien Testament, et souvent, avant que la citation soit donnée, ça dit « le Dieu de nos pères a dit », ou des expressions synonymes, mais « comme il est écrit, le Dieu de nos pères a dit par son serviteur David », ou des choses comme ça. Et donc, on voit une continuité, on voit que le Dieu de l'Ancien Testament, en fait, c'est le même Dieu, je veux dire, il y a un seul Dieu, mais l'Ancien Testament, le personnage principal, vraiment, beaucoup, on peut dire, c'est le Père, l'Éternel. C'est lui qui est mis de l'avant. Hein? Et donc, il était vraiment la stabilité, le fondement de tout ce qui se passait. Il se basait sur le fondement de l'Ancien Testament, la révélation de Dieu le Père pour ce qui était là. Mais ça va plus loin, parce qu'il y a eu les évangiles, il y a eu la venue de Jésus. Et le livre des Actes est aussi caractérisé par l'expression « Seigneur ». Je ne sais pas si vous saviez, mais dans le livre des Actes, OK? Puis pas « Seigneur » dans le même sens que des fois, quelqu'un pouvait être appelé « Seigneur » comme, tu sais, Abraham, puis tout ça, puis « Mon Seigneur », on voit ça des fois. Mais « Seigneur » pour référer à Dieu. Dans le livre des Actes, un livre de 28 chapitres, plus de 100 fois, 104 pour être plus précis, on a le mot « Seigneur ». Et la majorité du temps, ça réfère au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la révélation de l'Ancien Testament est un fondement, mais aussi la pleine révélation de Dieu en Jésus-Christ qu'on voit au début du Nouveau Testament dans ce qu'on appelle les Évangiles était ça aussi une grande vérité sur laquelle il s'appuyait. Puis c'est pour ça qu'on voit l'expression tellement souvent, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur. Et ça revient constamment dans tout ce qui... dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils prêchent, dans le fait qu'ils vont s'appuyer là-dessus pour leur vie, le fait qu'ils que c'est lui qui sauve, c'est lui qui a l'autorité. Et d'ailleurs, dans le passage qu'on a vu, même c'est vraiment ça qui est là. Il y avait les autorités qui disaient quelque chose, mais eux répondaient, obéissaient à un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. OK? Je prends le temps de vous expliquer ça pour vous montrer que la stabilité dans ces temps instables, c'était l'autorité de Dieu, telle que révélée dans les Écritures et telle que révélée dans la personne de Jésus-Christ. C'était leur autorité, c'est ce qui leur permettait d'avancer envers et contre tous, malgré ce qui pouvait leur faire peur, ils se soumettaient à l'autorité suprême, celle de Dieu. Mes amis, c'est exactement ça qu'on a besoin en ce moment. Savez-vous qu'en ce moment, la question fondamentale pour l'Église de Jésus-Christ, pour une Église comme la nôtre, c'est à qui est vouée notre allégeance? Qui est notre autorité? En qui on met notre confiance? Maintenant, il y a même plus ici parce que ces gens-là étaient évidemment sous la nouvelle alliance. Okay? Jésus est venu et a scellé la nouvelle alliance de son propre sang. C'est ce qu'on se rappelle à toutes les fois qu'on a le repas du Seigneur, hein? Son corps, son sang. Et la stabilité ou la pérennité, hein? Le fait que ça dure, ce qui était tout nouveau pour eux autres, parce que pour eux autres, la nouvelle alliance était tout nouveau, tout beau. Mais le fait qu'il n'était pas à la voix comme je te pousse puis tout croche parce qu'il y avait le fondement solide de l'ancienne alliance. Puis à tous les fois qu'il référait à l'ancienne alliance, ah, c'est l'accomplissement. Pour eux autres, c'était juste une confirmation. C'était la base solide sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour avoir l'assurance dans ces temps nouveaux. Et même chose aussi pour toutes les paroles de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, Jésus l'avait dit, allait les guider dans toute la vérité, leur rappeler les paroles que Jésus avait dit. Donc, pour vous dire, il avançait comme ça, pas mal, on pourrait dire, dans l'inconnu, mais il y avait le connu ou la sûreté des Écritures et de Jésus-Christ lui-même. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 2, lorsque Paul prêche, le premier message, le message de la Pentecôte, savez-vous qu'il fonde tout ce qu'il dit sur les Écritures? Plus précisément sur le prophète Joël, il dit ce que vous voyez arriver là, Joël l'a dit, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait dit qu'elle est arrivée. Puis ensuite, il continue son sermon, puis là, il se base sur le psaume 16 pour parler de la résurrection de Jésus, qu'il n'a pas vu la corruption, que son serviteur est ressuscité comme ça avait été annoncé. Et donc, cette prédication-là de Pierre, sa force, son assurance, son autorité reposent sur ces deux fondements-là, les Écritures et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait constamment recours à ça. Et même, on vient de le voir ici, dans le passage qu'on a lu, je ne sais pas si vous avez marqué, mais les versets 25 et 26, c'est la citation du psaume 2. Même, on le chante ici, hein? « Notre Dieu règne encore », c'est le psaume 2. Donc, ce qui leur arrivait, ils voyaient ça à la lumière des Écritures. Et il revenait constamment à ça. Puis, ce passage, celui qu'on a sous les yeux, nous montre que le but de ce recours aux Écritures, c'était pas juste pour dire « Ah, OK, on veut comprendre ce qui arrive. » Non, c'était pour rechercher la présence même de ce Dieu qui se révèle dans les Écritures, et plus précisément, Dieu le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui avait été promis par le Père. Jésus a dit, le Père, tu sais, je vais vous envoyer ce qui a été promis du Père, le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Jean 14. Puis Jésus lui-même a dit, restez à Jérusalem, attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, c'est l'accomplissement de ce qui avait été promis. Et donc, de par les Écritures, ils croyaient, ils étaient convaincus que la présence de Dieu avec eux, c'était indispensable pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu parmi nous, c'est la provision des provisions. Tout ce qu'on a besoin, on trouve par le Saint-Esprit. On est déjà parlé, hein? Mais pensez-y, là. Pensez à n'importe quelle requête de prière que vous pouvez avoir. Ah, je veux que quelqu'un soit sauvé, j'aimerais donc ça, qu'il puisse arriver à la connaissance de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On est dans la détresse, on a de la difficulté, on a de la misère. C'est qui nous console? C'est qui vient près de nous? C'est qui va être la réalité dans nos vies pour amener la parole, qu'elle soit précieuse, qu'elle soit... C'est Dieu, le Saint-Esprit. Pensez-y à toutes les requêtes de prière qu'on peut avoir, tous les besoins qu'on peut avoir. La réponse, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que quand on demande quelque chose à Dieu, dans Luc 11, il dit la réponse, Luc 11, 13, c'est le Saint-Esprit. C'est la réponse de toutes les réponses. C'est la provision des provisions. C'est la réponse aux prières qui est toujours là dans toutes les prières. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu avec nous. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est monté au ciel, puis il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Le mot « autre », il y a deux mots en grec pour « autre ». Nous, on dit « autre », ça veut juste dire « autre ». Il y a le mot, je vais vous les dire parce que vous allez reconnaître, « hétéros », puis « alos ».« Hétéros », on dit « hétéro », OK? Ça veut dire « pas pareil », deux différents. Puis « alos », ça veut dire « de la même nature ». Quand Jésus dit « je vais vous envoyer un autre consolateur », devinez quel mot qu'il prend. « Alors, je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre de la même nature. Un autre qui est essentiellement le même. » C'est-à-dire, Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Dieu, le Fils, est monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, ça c'est de l'intro. J'ai presque fini mon intro. Les gens ici, dans le livre des Actes, avaient toutes sortes de besoins. On a toutes sortes de besoins. Le contexte ici, c'est une église naissante. Ils voulaient prêcher la parole, ils étaient persécutés. C'était pas évident. Mais il y avait un endroit où aller. Et il y avait une réponse. Il allait à Dieu, puis il avait besoin du Saint-Esprit. Et ça m'amène à vous partager le titre de mon message, « Le courage ». Que donne l'Esprit immuable? Le courage. Il était dans des temps d'incertitude, des temps de peur, comme nous autres. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? On veut l'hardiesse, on veut le courage de continuer. Parce que le problème, c'était pas que Dieu était impressionné par les événements puis qu'il pouvait pas continuer. Non, il fallait que ses serviteurs simplement s'appuient sur lui, qu'ils reprennent courage, qu'ils ne se laissent pas arrêter parce qu'ils faisaient peur. Et ça, c'est pour ça que Dieu, le Saint-Esprit, était là parmi eux. Puis on a vu la réponse extraordinaire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, j'aimerais qu'on voit ensemble, trois vérités transformatrices par rapport au courage que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne. D'abord, dans le passage qu'on a ici sous les yeux, hein, le mot « assurance », ils ont prié pour de l'assurance et Dieu a donné de l'assurance. Ça dit hein, au verset 29, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et qu'est-ce qui est arrivé? À la fin du verset 31, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont prié, ils ont eu exactement la réponse qu'ils ont demandé. La première vérité que j'aimerais qu'on voit, c'est que l'assurance en Jésus-Christ chasse la peur. L'assurance en Jésus-Christ chasse la peur. L'inverse est aussi vrai. Le manque d'assurance, de foi en Christ, invite la peur. C'est soit un, soit l'autre. Ou pour le mettre dans d'autres mots, j'ai entendu ça dernièrement, ça a resté avec moi. Lorsque les chrétiens ont honte de Jésus-Christ, les pécheurs n'ont pas honte du péché. Mais lorsque les chrétiens n'ont pas honte de Jésus-Christ, les pécheurs ont honte du péché. Savez-vous ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il y a quelque chose qui se passe lorsque les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit, qui proclament la parole. Les gens en deviennent, ils ont honte du péché et ces choses-là. Mais c'est l'inverse. Qu'on arrête de chialer après le monde, que le monde fait bondir. C'est nous qui devons avoir le courage surnaturel qui vient de Dieu parce que c'est une loi spirituelle. Lorsqu'on a l'assurance qui est en Christ, ça chasse la peur puis ça fait une œuvre extraordinaire. Par exemple, quand on regarde, vous savez ici, là, On voit les apôtres dans le livre des Actes. On se demande quasiment si c'est les mêmes personnes que dans les évangiles. Dans les évangiles, il y avait peur, il y avait toutes sortes de questions très centrées sur eux. Je vais être le premier, puis là, puis tu sais. Puis là, après que les événements, bon, la croix, la résurrection, l'ascension, la venue du Saint-Esprit, après que tout ça se soit passé, wow, c'est plus les mêmes personnes. Il y a un courage, ils sont pas arrêtables. La différence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les contrôlait, c'est le Saint-Esprit qui les dirigeait. C'est lui qui donne l'assurance, qui chasse la peur. Donc, j'aimerais parler un peu de la peur. La peur, c'est une puissance spirituelle qui non seulement paralyse et fiche. Je savais que ça me fait ça, la peur. Hein? Mais je me rappelle une fois, j'étais en bicycle à pédale, je devais avoir à peu près 11-12 ans. Je revenais du dépanneur, OK? Moi, j'étais allé m'acheter des bonbons. Oh, mon ami, j'en ai-tu fait des voyages au dépanneur m'acheter des bonbons? Les enfants n'écoutaient pas ça, mais je pense que pour ça, j'aime plus les bonbons. Ça goûte le chimique. Je pense que j'en ai trop mangé quand j'étais petit. Moi et mon cousin, on trouvait des canettes vides, OK? Ou des fois, on aidait le monsieur du dépanneur. On vidait ses poubelles, puis il nous donnait une pièce ou deux. Puis là, une pièce, il sortait du tiroir caisse, puis il rentrait une minute après parce qu'on avait acheté des bonbons. Mais bon, je vais revenir acheter des bonbons. Avec mon petit capédage, je m'en venais. Puis là, j'arrive pour traverser la rue. J'ai sûrement pas très bien regardé. Un méchant gros camion, les 10 roues, il me tourne en face, puis je me rappelle, heureusement, il a fallu que je freine, mais j'ai complètement giflé, j'ai fait un cri « Wouah! » C'est incroyable. Tu sais, quand on dit, peut-être que Dieu a envoyé son ange, j'étais pas encore un enfant de Dieu à l'époque, mais mon ami, je m'aurais fait passer complètement dessus par un camion de main, j'avais aucune chance. Genre, la roue était haute de même par rapport à moi. Là. Fait que là, il y a tout le camion au-dessus, là, ça me donnait pas grand-chance. Puis ma roue de bicycle était à peu près à ça de la roue. C'est une des fois que j'ai eu vraiment peur dans ma vie. J'ai figé. Je me rappelle après, j'étais encore là, puis ça m'a pris du temps comme à revenir à mes sens, puis wow, mon ami. La peur a cette puissance de paralyser, de nous figer. Et c'est vrai dans le monde spirituel. Savez-vous que l'absence du Saint-Esprit dans nos vies, de la plénitude du Saint-Esprit, ça veut dire aussi l'absence de courage. Mais la présence du Saint-Esprit chasse la peur. Mais il y a plus que ça. Non seulement c'est une puissance qui fige, qui paralyse, mais aussi elle donne accès à Satan. En Éphésiens 4, 22, ça dit « Si vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès à Satan. » L'idée pour « accès », c'est le mot « topos », duquel on a le mot « toponomie », c'est-à-dire « ne donnez pas du terrain ». C'est ça l'idée. « Donnez pas accès, donnez pas du terrain, donnez pas un endroit où est-ce que Satan peut mettre son pied dans votre vie. » La peur, c'est une façon où est-ce qu'on laisse Satan mettre son pied. Puis Satan, de la nature qu'il est, s'il met son pied, il ne va pas juste rester à mettre son pied, il va vouloir mettre l'autre, puis prendre plus, puis prendre plus. Puis qu'est-ce que Satan fait? Si on laisse la peur comme ça nous contrôler, il va ensuite bâtir une forteresse. Ça, c'est pas mal plus dur. Il ne va pas juste être là comme un visiteur, il va vouloir s'installer de façon permanente. Puis la peur devient une forteresse dans nos vies qui nous contrôle. On va parler de ça dans un instant, mais juste pour vous en donner un peu plus ici. Si la présence du Saint-Esprit, le Dieu immuable, est invincible. Ah, j'aime ce mot-là. C'est vrai que le Dieu est invincible. Nous, on ne l'est pas, mais Dieu l'est. Et si on est en lui, qu'on demeure en lui, par conséquent, nous le sommes. Il n'y a rien qui peut nous atteindre qui n'est pas permis par Dieu. Savez-vous ça? Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais mourir et qu'il ne va jamais m'arriver d'accident. Mais il ne peut rien m'arriver qui est en dehors de ce que Dieu permet. Comme avec Job. Dieu était totalement au contrôle, puis Satan voulait enlever sa vie à Job. Mais Dieu n'a pas laissé. Parce que Dieu avait un plan, Dieu faisait quelque chose avec Job. La présence du Dieu immuable et invincible ne peut pas être là de façon prééminente, puissante dans notre vie, dans nos cœurs, si on laisse l'ennemi prendre du terrain avec nos peurs. Ça l'empêche. C'est comme les vases communicants. S'il y en a un qui est vide, l'autre se remplit. Sinon, plus j'ai peur, moins la présence du Saint-Esprit. J'attriste le Saint-Esprit, moins sa présence est là dans ma vie. C'est pas que si on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, mais est-ce que le Saint-Esprit a toute la place? Est-ce que j'ai la plénitude, comme on le voit ici dans le texte du Saint-Esprit? La manière par laquelle on laisse Satan prendre la place dans nos vies, je pense qu'une une des façons les plus proéminentes, c'est par la peur. J'utilise encore l'illustration de la pandémie ce matin. Parce que je pense que ça montre juste... Comment tout ça a commencé, la pandémie? Ça a commencé quand on a tous été sous la puissance de la peur. Un virus, ça peut tout nous tuer. Puis, je veux dire, c'était quand même, c'était raisonnable de dire, mais là, on peut mourir, des millions vont mourir. Tu sais, il aurait fallu être... Il y a une peur qui est saine où est-ce qu'on dit, mais à un moment donné, il ne faut pas être insensé, puis on va prendre des précautions, n'est-ce pas? Mais juste, ça l'illustre ici, avec la peur, on s'est placé sous le contrôle de cette peur afin d'avoir la sécurité. C'est là qu'on s'est fait avoir. Parce que maintenant, c'est plus de la sécurité, c'est du contrôle. Mais juste pour, c'est juste pour illustrer ce matin une vérité profonde au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est par la peur, c'est un instrument, un moyen de léguer, de céder le contrôle à notre chair, au monde, à Satan. C'est pour ça que c'est le plus grand danger qu'on a dans nos vies. C'est pas, ah, qu'est-ce qui m'arrive, puis tout ça. Il va tout le temps, il y a tout le temps des dangers dans la vie. Tu veux dire, on arrive là, l'hiver va commencer, il y a tout le temps des saisons de la grippe. On va en auto, il y a des gens qui ont peur d'aller en auto. L'avion, ou peu importe. Il y a 36 000 affaires qui peuvent nous faire peur dans la vie. L'idée, c'est est-ce que ça me contrôle? Est-ce que ça m'empêche de faire la volonté de Dieu? Est-ce que ça m'empêche de faire ce que je suis supposé de faire? C'est ça la question. Puis là, c'est pour ça qu'en ce moment, hey, on est l'Église du Dieu vivant. On ne devrait pas être empêché d'adorer Dieu en esprit puis en vérité, se réjouir dans le Seigneur, avoir la liberté du Saint-Esprit ensemble parce qu'on est contrôlé par la peur. Ça n'a pas de place dans la maison de Dieu, mes amis. C'est ça, parce que notre Seigneur, c'est Jésus. C'est lui qui contrôle notre vie. C'est lui qui est le chef de notre Église. C'est à lui qu'on fléchit les genoux, pas à la peur. Puis c'est pas la peur du virus ou la peur des autorités, s'ils nous prennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même il faut faire confiance à Dieu. Savez-vous que les chrétiens, la majorité des chrétiens de l'histoire, se rencontraient sous la menace. Des gens qu'on admire, le voyage du pèlerin, John Bunyan. Il a été mis en prison parce qu'il prêchait l'Évangile, mais aussi parce qu'il était rassemblé et il ne voulait pas écouter les ordres humaines de ne pas prêcher sous la coupole de l'Église d'Angleterre. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mes amis, qu'on ne perd pas nos fondements historiques, la majorité des chrétiens ont prêché dans un contexte qui fait peur. Puis encore de nos jours, aller au Venezuela, aller en Chine, aller en Corée du Nord... Les chrétiens se rassemblent et ils disent pas, ah, on le fera pas parce que... Là, je veux juste amener un point ici. Je parlerai avec mon frère, mais juste... Si on commence à raisonner selon la peur, puis pas selon la Bible, on tombe dans le piège du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? Si ça marche, on le fait. Si ça fait du bon sens. OK, en tant que chrétien, on fait pas ce qu'on fait parce que ça marche, ou parce que ça a du bon sens, on le fait parce que Dieu le dit. OK? Savez-vous que quand Jésus était sur terre, c'est Dieu fait homme, et je veux dire, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ils ont essayé de s'opposer à lui. Mes amis, ils les mettaient dans une canne, puis je veux dire, c'est le Fils de Dieu, là. Ils n'ont jamais réussi à le prendre. Mais ils ont essayé de l'arrêter de prêcher avec des petits règlements d'hommes. Ah, pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Ah, pourquoi tu t'assieds avec ces gens-là? Pourquoi tu fais ci? Puis ça? C'était toutes des. Ah, tu t'es pas lavé les mains? Ah, c'était des affaires d'hommes. Écoutez bien le raisonnement. Avec Jésus, on a essayé de mettre avec les petits règlements et tout ça pour essayer de l'arrêter. Puis Jésus, il n'avait pas peur de rien, mais il aurait pu dire, ah, mais là, rien, on ne peut pas. Mais écoutez, Jésus est allé sur la croix, le tombeau, ressuscité, est allé au ciel, on voit le Saint-Esprit qui vient dans le livre des Actes. Et là, comme Jésus l'avait dit, vous allez faire des œuvres plus grandes que moi, Jésus a ramené un cercle assez limité de personnes
à le suivre. Il dit ça même qu'il l'a dans Jean 6, on voit qu'il l'a, qu'il l'a abandonné. Mais là, dans le livre des Actes, c'est par milliers, 3000 le jour de la Pentecôte qui sont sauvés. Puis là, ça continue 5000 après ça. Là, Jérusalem commençait vraiment à être virée en dessous. Et là, les autorités se rendaient compte, wow, là, c'est nous qui est dans l'eau chaude. Parce qu'en plus, ils mettent tout ça sur notre faute. D'ailleurs, celui qui avait demandé, il dit que son sang retombe sur nous, ben là, c'est ce qui arrivait. Puis les apôtres n'étaient pas gênés de lui dire, vous avez crucifié le Seigneur. Puis là, il a ramené ça pour qu'il se repente et qu'il le reconnaisse. Mais mon point ce matin, c'est que, rendu dans le livre des Actes, là, c'était rendu vraiment trop. Puis c'est là qu'ils ont dit, OK, arrêtez de prêcher dans ce monde-là. C'était le point final. Arrêtez de prêcher. Souvent, on entend, ah, ben, quand on a le droit de prêcher, c'est correct. Mes amis, Satan, c'est pas comme ça qu'il marche. Si on laisse la peur nous contrôler, Satan n'arrive pas dans nos vies avec un gros 10 roues, puis boum, je prends toute la plaie. Non, il arrive subtilement, petit à petit. Il veut s'infiltrer dans nos églises avec des petites choses, puis tout ça, où est-ce que, au lieu de vouer notre allégeance au Seigneur Jésus, on va le vouer au gouvernement, à la peur de se faire prendre de ci, puis de ça. OK? Avec des petites affaires humaines. Puis à un moment donné, ça va arriver le jour où est-ce qu'ils vont dire « OK, prêche plus dans ce monde-là. » Mais ça, c'est la fin. Si on a de la misère en ce moment, Jérémie 12:5, si on est dans un champ paisible, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si on est de la misère avec ceux qui marchent, comment qu'on va faire quand ça va être le temps de courir? Si ça, ça nous fait peur, qu'est-ce qui va arriver quand vraiment, comme en Californie, dit, t'as même pas le droit d'avoir l'église ou rien? Mes amis, il y en a que c'est de même en ce moment. Mais qu'on voit que c'est la même idée. Spirituellement, c'est la force de la peur. C'est donner accès à Satan. Avec la peur, il ne faut pas qu'on cède. Notre Seigneur, il s'occupe de nous autres. Puis à travers l'histoire, il s'est occupé de ses enfants qui ont eu confiance en lui. La question ici, c'est la peur. Est-ce qu'on cède le contrôle à la peur?
Mes amis, c'est fondamental. Hey, je vous l'illustre avec quelque chose de puissant.
Je suis en train de lire un livre, ça s'appelle, je vous le conseille, The Adversary, l'adversaire. Bubeck, en tout cas un gars. C'est un classique sur la question de toute la guerre spirituelle. Puis là-dedans, il relate que c'est un pasteur qui, bon, de par comment Seigneur son appel sur sa vie, tout ça, il travaille beaucoup avec des gens qui ont des forces démoniaque, spirituel dans leur vie, puis tout ça. Puis le gars connaît la vérité biblique sur notre autorité en Christ et tout. C'est pas des affaires de charlatan, puis des gousses d'ail, des affaires de main. Non, non. Tu sais, c'est vraiment, c'est biblique. Mais à un moment, il y a une jeune fille qui est venue le voir, puis elle était complètement détruite de plus en plus par la peur. Elle avait de la misère à dormir, puis là, tu sais, comment les choses allaient de pire en pire. Et là, il s'est rendu compte, OK, je pense qu'il y a de l'implication démoniaque là-dedans, c'est plus que juste la chair, c'est plus que juste sa tendance, il y a quelque chose de plus. Fait qu'à un moment donné, il est avec la fille, puis là, il y a une de ces manifestations-là, puis tu vois, elle a bien peur. Là, il demande, il dit, au nom de Jésus, je te demande de déclarer c'est quoi ton nom. Puis il dit, le démon a parlé, puis il dit, son nom, c'était peur. Puis il dit, tant qu'elle a peur, elle reste sous notre contrôle. Il y en avait même plus qu'un. Puis ça, c'est juste pour illustrer le fait que la peur nous garde sous le contrôle de l'ennemi. Non seulement ça lui donne du terrain, mais ça lui laisse le contrôle. Mes amis, qu'on pense à ça en ce moment, c'est vraiment une vérité puissante. Pour nous autres, en ce moment, est-ce qu'on est sous le contrôle de la peur? Mes amis, le Saint-Esprit nous donne tout le courage dont on a besoin. On peut avoir une pleine hardiesse, une pleine assurance. On a le même Dieu qui est là, il n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'est pas moins puissant dans le livre des Actes, il n'est pas moins présent, il n'est pas moins capable. C'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça m'amène au deuxième point, mes amis. Ce Dieu-là qui nous donne l'assurance, qui chasse la peur, on peut s'approcher de lui. Et quand on s'approche de lui, notre Dieu est invincible. Qu'est-ce qu'on a à craindre si Dieu est avec nous? Regardez avec moi dans Hébreux 11. Hébreux 11. Le premier point, c'est la peur, l'assurance en Jésus-Christ chasse la peur. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit nous fait approcher de Dieu avec une foi spécifique.
Regardez Hébreux 11, 6. Vous connaissez sûrement le verset. On lit Hébreux 11. Au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense ceux qu'il cherche. » Le Saint-Esprit nous fait approcher de Dieu avec une foi spécifique. Je vous explique. Dans le livre des Actes, on a vu une prière qui était précise. « Seigneur, ce qu'on voit, c'est selon les Écritures. Et là, maintenant, on te demande spécifiquement de l'assurance. » Probablement qu'il avait peur. Il avait peur. C'est de la nature humaine. Mais on te demande de l'assurance, pas pour nous-mêmes, pas pour nous penser bon, mais pour toi, Seigneur, pour annoncer ta parole avec une pleine assurance et appuyer avec ton sceau des miracles que tu fais au milieu de nous autres. OK? Mes amis, ce genre de prière-là, ça ne se passe pas avec une prière floue et vague. Le Seigneur, on a besoin de toi, donne-nous ta grâce. Non, c'était précis. Seigneur, on voit leurs menaces. Donne-nous le courage, l'assurance d'annoncer toute ta parole. Mes amis, les prières sans but et floues, ça donne des réponses sans but et floues. Savez-vous, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est précis. Par exemple, des fois, « Ah, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. » Je ne veux pas offenser personne, mais si on fait juste prier comme ça, savez-vous quoi? On prie probablement par la chair. Parce que le Saint-Esprit, quand il travaille dans la vie, il va nous montrer un péché. Il va nous montrer comment j'ai été égoïste avec cette personne-là, comment je refuse de pardonner, comment je refuse d'aller m'humilier. Le Saint-Esprit est précis de même. Puis il va dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qui ne marche pas en ce moment. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème d'être vague puis d'être flou. Il est précis. Le problème, c'est nous autres, des fois, qu'on ne prend même pas le temps de l'écouter. Puis c'est pareil avec nos besoins. Ah, Seigneur, aide-nous. Puis, Seigneur veut nous aider, mais avec quoi? Quand Jésus a vu Bartimée, l'aveugle, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Puis, il y avait une requête précise. Que je recouvre la vue, Seigneur. Ici, dans le livre des Actes, je viens de l'expliquer. Mes amis, si on est flou, ça montre qu'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit par rapport à notre péché, qu'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit par rapport à notre besoin. Il manque la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous fait approcher Dieu avec une foi spécifique. On est dans le besoin, le Seigneur nous montre c'est quoi, puis on va à Dieu avec ce besoin-là. Je crois que ce point, plus que bien d'autres, dévoile ou révèle qu'on prie par la chair plus souvent que par l'esprit. On a des prières floues et générales, comme si on s'attend à ce que Dieu fasse rien de spécifique. Est-ce qu'on prie un Dieu qui est capable de faire des choses précises? Ou si on est dans le flou, comprenez-vous? Si Dieu est vivant, si Dieu est vrai, il est capable de s'occuper des vraies affaires qui arrivent pour de vrai, précisément. Mais si je suis dans le flou puis dans le vague, c'est quoi que je m'attends à Dieu? Puis souvent, c'est ça. Pourquoi on n'a pas? Parce qu'on ne demande pas. On n'arrive pas avec Dieu précisément. Mes amis, ça, c'est illustré d'une façon puissante avec un événement historique. Savez-vous qu'il y a des réveils? Des fois, on pense, ah, les réveils, c'est arrivé il y a des centaines d'années. Je viens d'écouter un prédicateur qui parlait de l'histoire des réveils plus récents. Il y en a même eu dans les années 2000, mais bon. C'était pas Cambodge. Adam Armin Judson, c'est quoi le nom du pays qui est allé? Myanmar, puis comment? Burma. Ils ont changé de nom, là. Hey, une affaire qui a duré, genre, pendant plusieurs mois, je pense même jusqu'à un an. En tout cas, je veux dire, tu sais, un mouvement de l'esprit qui vraiment, on voit conviction de péché, des milliers de personnes, ça veut dire des choses. Mais, dans les années 50, fin des années 40, sur l'île de Lewis, OK, ça, c'est les îles écossaises, OK, il y avait deux petites madames. Tellement, dans à peu près dans 80, puis tu sais, il était incapacité, il ne pouvait pas aller à l'église. Mais c'était des madames qui connaissaient la prière. Puis, il y a eu plusieurs réveils sur cette île-là. Puis là, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de réveil. Oh, malheur, eux autres, disaient, faut qu'il arrive de quoi, tu fais 7 ans qu'il peut rêver. Hey, si on avait ce problème-là, je serais pas mal content. Mais c'est une église qui a connu, un île qui a connu plusieurs réveils. Et donc, ces madames-là ont à cœur de prier que, Seigneur, tu envoies encore un réveil. Puis ils s'appuyaient sur la parole. Ils s'appuyaient sur Ésaïe 43, 19 et 20. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point, qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il dit, Seigneur, mets des fleuves dans la solitude. En anglais, je pense, ça dit parched land. C'est comme l'idée d'une terre desséchée. Seigneur, tu peux mettre des fleuves. On est sec, Seigneur. Fais descendre les fleuves d'eau vive sur nous autres. Et c'était ce genre de prière-là qu'il y avait qui s'appuyait sur la parole du Seigneur. Et donc, ces deux madames-là sont pas allées à Dieu avec une prière floue, Dieu réveille-nous, puis tout ça. Non. Il était habitué d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis le Seigneur l'avait précisément mis à cœur de prier pour un jeune évangéliste du nom de Duncan Campbell. Puis les autres, ils voulaient. C'est pas eux autres qui voulaient, mais il y avait clairement la direction du Seigneur que c'était lui qui allait venir parce qu'il y avait dans ce temps-là, il faisait des réunions de réveil, ça durait 10 jours. OK? Ouh, 10 jours, c'est plus qu'une semaine. Je sais pas si on sera habitué à ça, mais bon. Fait que là, il avait prévu telle date de le faire venir. L'Église avait prévu ça. Les madames sentaient la direction du Saint-Esprit là-dessus. Ils ont partagé avec le pasteur. Puis le pasteur, connaissant ces femmes qui étaient au diapason avec le Saint-Esprit, dit « Ouais, je pense qu'elle se le dit, ça doit être la direction que le Seigneur donne. » Il a envoyé une correspondance à M. Campbell. Il dit « Désolé, dans ce délai-là, j'ai déjà une convention, je ne peux pas venir. » Les madames n'acceptaient pas un non comme réponse. Il dit « Non. » redemandez-y encore, on sait que Dieu veut que ce soit lui qui vienne. Fait qu'il renvoie, puis même réponse, il dit, désolé, je peux pas changer, c'est une convention, il y a beaucoup de monde, puis je peux pas changer ça. Et les madames encore, elles disent, ça c'est ce que l'homme dit. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il dit. On sait que Dieu veut que ce soit lui qui vienne prêcher, mais quoi, ou non? Dieu a fait en sorte que cette convention est annulée parce que, bon, il y avait les hôtels étaient pleins dans la ville parce qu'il y avait une autre affaire en même temps. Convention est annulée. Monsieur Campbell vient. La réunion qui était supposée de durer 10 jours a duré 3 ans. Dieu est descendu. Dieu est. Il y a l'extraordinaire réveil qui est arrivé. Vous pourrez lire là-dessus sur le réveil de Lewis. Ces madames-là n'étaient pas dans le flou quand c'était le temps de prier. Ils savaient que Dieu avait dirigé là-dessus, ils restaient stickés là-dessus, comme on dit en bon québécois. Et Dieu a agi en réponse à cette prière. Mes amis, c'est ce type de prière spécifique, sur des promesses spécifiques. Vous dites, ouais, mais on n'est pas supposé avoir un fleuve qui tombe dans l'église. Non, mais savez-vous quoi? Je pense que dans nos vies desséchées, Dieu va envoyer le fleuve d'eau vive, puis il ne veut pas qu'on ait des citernes crevassées. Puis il y a bien des promesses comme ça qu'on peut aller dans la parole puis les réclamer de Dieu, puis dire, Dieu, c'est ça qu'on a besoin. On est sec, on a besoin de ton eau vive. On n'est pas fertile, on veut porter du fruit. On peut venir à Dieu avec dans sa parole, puis Dieu nous dit que c'est des choses qu'il est capable de faire, pas juste pour Israël du temps, Dieu est capable de faire ça pour nous encore. Ça amène notre troisième vérité transformatrice ce matin. Non seulement l'assurance qui chasse la peur, non seulement s'approcher de Dieu de façon spécifique, mais aussi s'offrir à Dieu par le Saint-Esprit. Regardez dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui, regardez ici, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? La seule façon de s'offrir à Dieu, en esprit, en vérité, la seule façon de s'offrir à Dieu d'une façon qui lui est agréable, c'est par le Saint-Esprit. En passant à ce passage-là, si vous voulez, le passage qui nous dit que l'Esprit est éternel, qui est immuable, c'est là. Okay? Christ qui s'est offert par l'Esprit éternel. Vous savez, étudier en pneumatologie, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit, c'est un verset clé. Okay? Parce que ça nous parle de la divinité du Saint-Esprit, parce qu'il y a juste Dieu qui est éternel. Puis, okay? Mais ici, ce que je veux souligner, si Christ, qui est Dieu, fait homme, qui est parfait, s'est offert par l'Esprit éternel, à combien plus forte raison nous, si on veut s'offrir à Dieu, nous étant souillés par le péché, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos motifs, combien on a besoin aussi de s'offrir à Dieu par l'Esprit. On a besoin de la sanctification de l'Esprit par la foi en la vérité, comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Maintenant, voici une question. Comment savoir si je vis par le Saint-Esprit? Si vraiment le Saint-Esprit contrôle ma vie? On a la réponse dans 1 Thessaloniciens 2, 13. Paul parle aux Thessaloniciens, puis il les loue, il dit, « Je suis content que vous avez reçu la parole, pas comme la parole des hommes, mais comme elle est réellement la parole de Dieu qui agit puissamment en vous. » Comment savoir si je suis rempli du Saint-Esprit? La parole vivante de Dieu va agir en moi. L'Esprit qui a inspiré la parole va agir dans ma vie par la parole. Ça va ensemble. Et le mot ici pour l'Esprit qui agit en vous, c'est le mot duquel on a en français le mot énergie. La parole qui est énergisée en vous, qui est l'énergie de votre vie. Est-ce qu'on peut dire réellement ici ce matin que c'est ce qui caractérise ma vie? La parole de Dieu qui est énergisée dans ma vie, qui est à l'œuvre dans ma vie, qui agit dans ma vie. Autrement dit, est-ce que ma vie est caractérisée par la grâce du Saint-Esprit qui me fait agir, qui me pousse à faire ci, à ne pas faire ça? Est-ce que la parole est active dans ma vie? C'est-tu que l'un des premiers signes de ça, c'est le courage que donne le Saint-Esprit? Vous voyez, quelqu'un qui est contrôlé de l'Esprit, c'est la parole de Dieu qui va sortir de sa bouche. C'est pas ce qu'il pense, c'est pas ses... Puis c'est ça qu'on a besoin, mes amis. Les gens n'ont pas besoin d'entendre nos opinions, n'ont pas besoin de tout comprendre ce qu'il fait. Les gens ont besoin d'entendre la parole du Dieu vivant. C'est ça qui sauve. J'ai entendu un prédicateur qui disait dernièrement, dans les événements actuels, il y a toutes sortes de politiques, il y a toutes sortes de choses, mais en tant qu'enfant de Dieu, puis spécialement en tant que prédicateur de l'Évangile, on doit être connu pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce qui doit nous faire connaître d'abord et avant tout. On veut comprendre les temps dans lesquels on est. On veut, comme je dis, on veut comprendre qu'on ne doit pas se soumettre à la peur et aux mensonges qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que notre vie, c'est Christ. Parce que notre message, c'est Christ. Toutes les choses qu'on voit, c'est toute la peur par rapport à ici-bas. Sauvons-nous nous-mêmes. C'est de l'auto-rédemption. Ah, si je fais ça, je vais être safe. Safe pour qui? Pour quand? Pas pour longtemps, c'est juste ici-bas. Si tu ne mets pas Christ dans ta vie, si tu ne reçois pas le sacrifice de Christ pour le salut de ton âme, même si tu as toutes les mesures de sécurité auxquelles on peut penser, tu t'en vas droit en enfer, tu vas mourir peut-être en santé, mais tu vas mourir loin de Dieu. C'est ça le plus important. Puis nous, en tant que chrétiens, c'est ça qu'on doit proclamer. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui va sortir de notre bouche. C'est ça notre motivation. C'est ça notre message. Le message de Jésus-Christ, la victoire qui est en lui, le pardon qui est en lui, le Rédempteur. Et ça, mes amis, c'est pas quelque chose de naturel. Essayez pas de trouver ça à quelque part dans votre cœur, dans votre nature. Un mot qu'on utilise des fois presque, on va pas dire le mot nonchalant, mais peut-être un peu trop facilement, c'est le mot grâce. Le mot grâce, c'est la capacité surnaturelle que dit supernatural enablement. Je trouve que ça se dit bien en anglais. La capacité surnaturelle que Dieu donne. Savez-vous que la vie chrétienne, c'est ça? Il n'y a pas une vie chrétienne par la grâce, puis une vie chrétienne, j'essaie du mieux par... C'est pas la vie chrétienne, celle-là. C'est une contrefaçon, c'est une imitation. La vie par le Saint-Esprit, m'offrir à Dieu, la seule façon que c'est possible, c'est par le Saint-Esprit. Et on a parlé de ça un peu les mercredis soirs, mais... Vous savez, il y a cette mentalité trompeuse, destructrice, mais bien présente dans nos milieux, Et ça va un peu comme ceci. Si je fais ci, si je fais ça, si je fais pas ci, si je fais pas ça, je suis un bon chrétien. Et savez-vous quoi? Ça peut être toutes des choses nobles et bonnes et bibliques. Mais voici où est la tromperie là-dedans. Un témoin de Jéhovah peut faire ça. Un païen moral peut faire... Tu sais, il y a des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, puis qui ne regardent pas des choses mauvaises sur Internet. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Tu n'as pas besoin de la force surnaturelle de Dieu pour faire ça. Ça, c'est le piège de la sanctification par les œuvres. C'est le piège de l'imitation. C'est-à-dire que c'est le meilleur de ce que l'homme peut faire. Mais la Bible nous amène dans une autre catégorie complètement. L'idée que moralement on peut faire certaines choses puis pas faire, ça s'explique humainement. Comme je dis, un témoin de Jéhovah, un bon catholique ou un musulman peut faire ça. Ou même quelqu'un de daté, là, mais il y en a qui ont un sens moral, puis ils vont dire, non, tu sais, moi je suis raisonnable, puis tout ça. La chrétienté, c'est pas une version améliorée de la chair, c'est pas un effort supplémentaire à ce que les autres... C'est pas ça la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est surnaturel. La vie chrétienne, ça s'explique pas humainement. La vie chrétienne, ça se résume par la grâce. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes amis, ça, c'est vivre par la grâce. C'est Dieu qui... Au lieu que, rappelez-vous, j'avais pris l'expression, je pense, un ou deux dimanches, au lieu d'être pris dans une prison de « fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça ». Ça, c'est la loi, c'est me donner, OK? C'est plutôt dans la liberté de ne pas vouloir faire ça. Parce que c'est la puissance d'un cœur transformé. La puissance de la grâce qui m'enlève même le désir de faire ce qui est mauvais, puis qui me donne un désir de faire ce qui est bon, qui me donne un courage, qui me donne... C'est ça la vie chrétienne, ça ne s'explique pas humainement, c'est surnaturel. On voit ça dans le livre des Actes, on dit, mais c'est donc bien lointain. Eux autres, il y avait ça, on a le même Dieu, on est des gens de la même nature qu'eux autres, puis en plus, on est dans des circonstances qui commencent drôlement à ressembler aux leurs. Donc, tout est là, là. On a juste à se confier dans cet esprit-là, l'esprit du Dieu vivant. Et je pense qu'on s'est trop longtemps et facilement contenté de la contrefaçon de la chair. Il est temps de s'en repentir puis de vivre réellement par la grâce. Et j'ai employé l'expression sanctification par les œuvres, ou certains vont dire le légalisme, différentes façons. Savez-vous que ça, c'est de l'hypocrisie, et que derrière toute hypocrisie se cache ce que je dénonce depuis le début du message? La peur. La peur des hommes. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres bons chrétiens vont dire? Mes amis, il y a un piège là-dedans. Pour ça que j'admire, et spécialement les hommes, qui se sont tenus et dire, « Hey, excusez, mais moi je vais faire ce qui est droit, je vais faire ce qui plaît à Dieu. » Peu importe ce que peuvent dire les autres. Vous savez que John MacArthur a perdu des amis, a perdu des alliés dans ça, là. Puis il y en a d'autres aussi, Jack Treber. Puis j'ai pas eu de nouvelles ben de Chapel. Je sais pas ce qui arrive trop avec lui. Je sais pas si lui aussi a le même genre de choses. Mais à un moment donné, si on n'est pas prêt à payer le prix, si on n'est pas prêt à se confier dans la grâce de Dieu, dans sa protection, dans sa souveraineté, on fera jamais de différence pour Christ. Puis excusez-moi, mais un témoignage pour Christ, c'est pas de... C'est quoi le témoignage pour Christ à travers l'histoire? C'est ceux qui se sont tenus courageusement pour leur Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego, pourquoi on va les admirer? Parce qu'ils se sont tenus face à la pression. Daniel, puis le livre des Actes, puis dans l'histoire, c'est qui a laissé sa marque? C'est ceux qui n'ont pas cédé à la peur, mais qui se sont confiés dans leur Seigneur. Et on s'est habitué à cette peur-là. On l'a excusé, on lui a donné toutes sortes de noms pour que ça paraisse moins pire. Mais il est grand temps qu'on vienne à la réalité. Qu'on arrête de donner du terrain à Satan, au monde, dans nos vies, avec cette peur, puis qu'on arrête de la justifier, puis qu'on... La confession, c'est ça, c'est d'appeler le péché comme Dieu l'appelle. Dieu, je te fais pas confiance. J'essaie de me protéger moi-même, j'essaie de me sauver moi-même. J'ai peur de ce que les autres vont dire. Je veux pas paraître bizarre. C'est ça le problème. La question c'est, Dieu, peu importe ce que tu vas me demander de faire, je vais le faire, je vais te faire confiance. Puis je dis pas d'être insensé puis d'être méchant avec les autres. Mais est-ce que Dieu est le Seigneur de son Église puis il a le droit de dire qu'est-ce qu'on doit faire puis pas faire? Puis est-ce qu'on vraiment on se confie en lui? Quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Mais je suis abasourdi comment il y a peu de personnes qui ont du courage en ce moment.
OK. Je termine avec une image. Une petite histoire. Tant que vous écoutez ça, puis là, vous dites, je suis débordé, mais ça... Mais hein, j'ai peur, puis...
Peut-être que la peur de sortir de la peur vous fait trop peur. Puis vous êtes paralysé.
Le Seigneur m'a parlé dernièrement avec une histoire qu'on connaît tous, mais que j'ai redécouvert. Comme les cornflakes, goûtez-y encore pour la première fois. Tu sais, des fois, des choses qu'on connaît, puis on se rend compte, wow, il y a une nouvelle fraîcheur. Mais on a l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas? On l'a entendu, on l'a lu, on l'a entendu, même moi j'ai une chanson que je connais là-dessus, là, avec les Thompson, là. J'ai entendu différents messages là-dessus. Mais dernièrement, j'ai entendu un message que j'avais jamais entendu sur cette parabole-là, et c'était fondé sur comment les gens à l'époque le comprenaient. Vous savez qu'à l'époque de la Bible, comme en Asie beaucoup en ce moment, ben, ça fait longtemps, c'est une culture d'honneur et de honte. Là-bas, là, la pire chose que tu peux avoir, c'est la honte sur ta famille, sur ton nom. C'est pour ça que même... Puis on a ça aussi en Afrique, souvent les gens se prononcent d'abord par leur nom de famille. Parce que c'est l'honneur de dire « moi, je suis de cette famille-là ». Ici, ça nous est complètement étranger. Puis souvent, on lit la Bible avec nos grosses lunettes occidentales qu'on passe complètement à côté de ce qui est dit en premier dans le texte. Jésus, quand il y a trois paraboles dans Luc 15, la troisième, c'est la plus puissante, et la Bible nous dit que c'est en réponse aux pharisiens qui l'écoutaient, puis qui disaient que qu'est-ce qui fait avec des gens de mauvaise vie, puis des publicains, puis autrement dit, c'est donc bien honteux. Quelle honte! Jésus lui parle de la honte. Et quand on lit l'histoire, moi je vous dis, je la lis, puis ah, oh, wow, c'est super, ça. Puis le fils retourne en lui-même, puis là, il va au père, puis le père court, puis il restaure, puis... Savez-vous que pour les pharisiens qui écoutaient, là, eux autres, à toutes les fois, Jésus, c'est comme s'il en beurrait plus épais, puis plus épais. Premièrement, le fils qui fait, c'est très honteux, OK? C'est-à-dire, de demander ton héritage avant, c'est qu'il m'a souhaité de la mort de ton père, puis c'est super honteux, puis c'est encore plus honteux pour le père de dire oui, puis d'y donner. Dans la culture, il aurait dit, pff, jamais de la vie. Il donne, fait que là, un fils honteux avec un père honteux. Il s'en va vers les païens, puis là, OK. Mais là, ça continue encore. Où est-ce que, bon, le fils fait quelque chose de bien, il se repent, puis là, il dit quelque chose que les pharisiens auraient dit, hey, ça a du bon sens, enfin, pour une fois. Il dit, je vais aller voir mon père, je vais dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'était ça qui était coutume à l'époque. Vu qu'il avait déshonoré son père, là, d'être traité comme un sous-esclave, si vous voulez. OK? D'être traité comme un moins que rien pour essayer de regagner la faveur de son père parce qu'il avait tellement fait honte à la famille. Là, les pharisiens disent « Enfin, ils commencent à parler comme du bon sens. » Mais non, les choses se remplirent. Le père était là, puis lui-même se couvre de honte encore pour son fils. Non seulement, il dit pas, vous savez, le fils arrive tout prêt avec son speech, là, c'est... Il n'y a même pas le temps de rien dire. Premièrement, le père court vers lui, ce qui était honteux. Les gens dignes du Moyen-Orient ne courent jamais. Ils ont des grandes robes et tout ça. Puis quelqu'un court pour eux autres, ils marchent. C'est honteux de courir pour des gens de cette classe-là. Mais en plus, il s'en va, puis il l'embrasse, puis l'autre, il sent le cochon. Autrement dit, le père se couvre de honte pour le fils. Et le fils aîné ne manque pas de souligner tout ça, d'ailleurs. Mais voici ce qui m'a tellement frappé là-dedans, puis je veux terminer avec ça ce matin. C'est une histoire de honte, là où il aurait dû avoir de l'honneur. Mais écoutez, le point de l'histoire le plus fort, c'est que le père a pris sur lui-même la honte du fils.
Ça, c'est la révélation de qui notre Dieu est. Il a pris la honte de notre péché. Ce qui est honteux dans nos vies, dans nos cœurs, Christ l'a pris sur lui. Mes amis, l'histoire du fils prodigue, ça se consomme tout à la croix. Puis j'ai entendu une fin horrible à cette histoire. J'ai dit, oh, ça n'a pas de bon sens, comment ça finit de même. Imaginez-vous que le fils est né. À la fin de l'histoire, vous savez comment ça finit. Ah, oh, tu m'as même pas donné un veau, puis tout ça, pour que je me réjouisse avec mes amis. Puis le père, il dit, hey, t'as tout, t'es avec moi. Imaginez-vous que, puis on sait, c'est une histoire qui finit pas, c'est une fin ouverte. Il n'y a pas de dénouement. D'ailleurs, même que ça a l'air que de la façon que c'était fait, les histoires, là, il y avait 8 sections, puis là, ça finit à 7. Ça laisse les gens sur leur fin. Mais voici la fin que le prédicateur a dit, écrivez pas ça dans vos bibles, là, c'est pas inspiré, mais voici ce qu'on peut imaginer comme fin. Le fils aîné a pris un morceau de bois, puis a battu son père à mort, puis est parti avec l'héritage. Wow! C'est quoi? C'est comme ça. C'est arrivé. Les mêmes gens, les scribes, les pharisiens, ont pris le fils, ils l'ont pendu au bois, puis l'ont condamné à mort. Lui qui prenait leur honte, ils l'ont traité comme un criminel. Et mes amis, je veux que ça rentre dans nos cœurs, cette vérité-là. Vous dites, mes amis, j'ai pas de courage. J'ai pas la foi, puis j'ai honte de moi. Mes amis, Christ nous a libérés de la honte en la prenant sur lui-même. Vous savez qu'il y a une liberté là-dedans quand on accepte ça. On n'a pas à avoir honte. Notre péché a été couvert par Christ. Ah, le péché, c'est honteux, puis on ne prend pas le péché à la légère. Mais mes amis, qu'on se rappelle que Christ l'a subi pour nous autres. Puis encore plus que ça, le péché, non seulement c'est honteux, mais ça en appelle à la colère de Dieu. Et Christ l'a subi ça aussi pour nous autres. On est dans Hébreux, je veux juste vous montrer un verset, c'est mon appel ce matin. Hébreux 2:15. Hébreux 2:15. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Peut-être que c'est une description de toi ce matin. Vous savez que on vit ça en ce moment là sur une échelle planétaire. Par crainte de la mort, les gens sont tenus dans la servitude. C'est ça qui arrive. Ah, je veux pas mourir. Puis on est tenu dans la servitude. Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui puis que vous avez peur de la mort puis que vous n'êtes pas certain de ce qui va arriver après, vous faites bien d'avoir peur parce que il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus. Il n'y a pas de sécurité dans ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez essayer d'être une bonne personne, de vos mesures que vous essayez de prendre pour plaire à Dieu, apaiser Dieu. Il n'y a rien de ça qui suffit. Il y a un sacrifice, il y a une provision que Dieu a donnée. C'est son Fils Jésus-Christ. Et donc, vous êtes dans un endroit de peur mortelle. Sortez de cette peur, rentrez dans la foi, acceptez la provision de Dieu pour votre âme. Et mes amis, si vous êtes un enfant de Dieu, la peur, c'est un étranger dans nos vies. Christ a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Combien de fois qu'on l'a lu ce matin dans Ésaïe? « Ne crains point, parce que je suis avec toi. » Un enfant de Dieu qui a la peur dans sa vie, il accepte un étranger, un intrus. Puis, comme je l'ai dit, ça laisse à l'ennemi le terrain dans notre vie. Oh, que le Seigneur puisse travailler pour produire du fruit, suite à ce qu'on vient d'entendre. Merci Seigneur, que ta parole est la vérité et que tu ne veux pas nous prendre dans aucun piège, tu n'es pas trompeur. Tout ce que tu dis est absolument vrai, digne de confiance, entièrement digne d'être reçu. On te loue pour ça Seigneur. Et ce matin, on veut ajouter foi à ce qu'on a entendu. Seigneur, la peur fait partie de notre nature humaine et on ne veut pas essayer de la contrecarrer avec les meilleurs efforts de notre chair, mais Seigneur, Esprit du Dieu vivant, que ta grâce submerge, puisse inonder de courage, de force, d'amour, tous ces sentiments de peur qu'on pourrait avoir, que ta grâce expulse tous les dangers, tous les pièges du péché, et que vraiment, Seigneur, ton peuple réuni ici vive dans la liberté par laquelle on est affranchi. Ah, et s'il y a quelqu'un ici qui est encore dans les liens de la peur pour son âme, pour son éternité, qu'il voit la croix parfaite, la croix absolument souveraine, qui sauve quiconque s'approche par la foi de cette croix. Merci que tu es vivant, que tu as vaincu la mort pour sauver ceux qui reçoivent ton sacrifice. Seigneur, fais ton œuvre. Agis au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, levez-vous.